Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Furia Liga. Au programme ce soir, l'analyse du match amical Espagne-Suisse qui s'est soldé hier soir par un score de parité 1 partout et une grande page consacrée à la 42e et dernière journée de Segunda. Cette semaine, la joyeuse bande joue sa place dans la liste définitive des 23. La voix d'Henri Dess, le professionnalisme de Darius Rochebain et le plat du pied de Ricardo Rodriguez, Elias Bailly, bonsoir.
Salut, oh là là, que de personnalité suisse dans cette introduction, c'est émouvant.
Assez hétéroclite quand même, hein, à pas se mentir. Mais vaut mieux que tu aies le plat du pied de Ricardo Rodriguez que celui d'Henri Dess.
C'est ça, mais tu sais que Darius Rochebain, c'est la deuxième idole nationale après Federer ici, hein. C'est du sérieux.
Je sais, mais je cite que les cracks, moi. En plus, Henri Dess, c'est un peu votre John Lennon, donc ça colle bien. Il aime Numancia, le jeu d'Alvaro Cervera et les victoires de Las Palmas, à moins que ce ne soit l'inverse. Jérémy Pintiot, bonsoir.
Bonsoir. Ouais, t'es pas loin.
J'ai pas... À côté de la plaque, mais presque.
C'est ça.
On va attaquer avec l'analyse d'Espagne-Suisse, le match qui a fendu le cœur d'Elias, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, Elias dit 90. Ce qui traduit une ascendance de l'autre côté des Alpes. Bon, alors déjà...
Au départ, j'ai cru qu'il était belge. Hein.
Oui, moi aussi.
Mais je ne changerai pas.
Déjà, avant de démarrer l'analyse du match, je voudrais un peu votre avis à tous les deux sur choisir le Villarreal pour envoyer de l'amour à la Roja avant de partir au Mondial. Parce que j'y suis déjà allé à ce stade-là. Je comptais y aller là, hier, mais bon, la Fédération espagnole a refusé ma carte de crédit. Voilà, si vous voulez tout savoir, je me suis acharné, ils n'ont jamais voulu me lâcher mes places, donc voilà. Mais franchement, le stade de Villarreal, c'est un cimetière, c'est un truc de... Enfin, moi, j'avais vu un Villarreal Celta, 5-0 pour Villarreal, et il y avait une ambiance vraiment de mort, c'était terrible. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu jouer ailleurs que là, même si tu avais la certitude de faire un guichet fermé?
Bon, l'Espagne, c'est le point positif, c'est qu'elle tourne pas mal dans le pays et ça donne l'occasion à différentes villes de voir jouer la sélection. Mais c'est vrai que bon, ils auraient pu aller à d'autres moments à Villarreal et on aurait pu imaginer qu'avant de partir aussi, ils pourraient être allés à Gijón, pourquoi pas, ou à Séville, ou à Mestalla, à Valence, mais dans ces stades-là un peu plus vivants, on va dire. C'est vrai que Villarreal, c'est un beau stade de l'extérieur, mais après, le public, ça n'a jamais été un public, malgré les beaux résultats de l'équipe, malgré le beau jeu, ça n'a jamais été un public qui s'est enthousiasmé outre mesure, on va dire.
Après, je pense qu'aussi, c'est vrai qu'il aurait été, ça aurait été sympa d'aller envoyer la Roja donc dans un, par exemple, dans un stade de seconde division. Mais en fait, comme il y a eu une journée la veille, ça a pas pu se faire. Après, pourquoi Villarreal là? Ça, je suis pas dans les hautes sphères de la fédération pour savoir ça. Mais c'est vrai que c'est assez mort. Et quand on le regarde en plus à la télé, ben voilà, c'est encore plus atténué au niveau du son. Donc ouais, c'était un peu une ambiance spéciale. Ouais.
Au-delà de ça, on va parler du match. Alors, personnellement, je me suis un peu ennuyé. Je trouve ça très, très long, en fait. On va attaquer d'abord en parlant de Diego Costa, parce que c'était le duo qui formait avec Iago Aspas était à suivre. Comment vous avez trouvé la performance de Diego Costa, notamment par rapport à celle contre l'Argentine lors du dernier rassemblement?
Vas-y Elias, je te laisse.
Bah, Diego Costa, je crois qu'en quelques minutes, on a eu un résumé de ce qu'est Diego Costa avec l'Espagne. Et c'est difficile, je trouve, de continuer à imaginer Diego Costa dans ce collectif. On a souvent invoqué, on va dire, le jeu, le collectif, le groupe, pour beaucoup de sélections où certains joueurs très bons n'allaient pas. Et j'ai l'impression qu'avec Diego Costa, c'est un peu l'inverse. C'est un joueur qui est très bon, qui fait consensus partout en Europe, parce qu'il a prouvé à plusieurs reprises que c'était un des meilleurs attaquants d'Europe, ça c'est clair. Mais il a un style très très défini, un style très à lui, et qui marche très bien dans certaines équipes qui ne sont pas l'Espagne, justement. Atlético Madrid est son jeu, Chelsea est son jeu, c'est des jeux qui sont très différents du jeu espagnol. Et on pourrait penser qu'un grand attaquant, il s'insère dans n'importe quel type de jeu, mais ce n'est pas le cas, et encore moins avec ce jeu de l'Espagne qui requiert beaucoup de variantes, beaucoup de spécificités, on va dire, quand vous entendez jouer au milieu de ce collectif. Et Diego Costa, ben, la rage, elle est là, l'envie d'aller marquer, elle est là, le fait qu'il embête la défense, c'est pas tant chez lui. Mais derrière, s'il faut aller combiner avec ses coéquipiers, c'est tout de suite plus difficile. S'il faut aller jouer dans les petits espaces, c'est tout de suite plus difficile. Il peut jouer en pivot, ça c'est vrai, mais il faut un attaquant qui peut faire autre chose que jouer en pivot, qui peut, on va dire, faire quelques pas de plus dans le jeu pour vraiment se mélanger à ce collectif espagnol. Diego Costa, bon, durant les premières minutes de ce match, on a très vite compris que ce serait le Diego Costa d'habitude, et c'est assez intéressant de voir que les sélectionneurs, on va dire, continuent à lui faire confiance. On pourrait même dire s'obstinent si on était un peu péjoratif, c'est pas mon intention, mais ils ont confiance en Diego Costa, c'est leur premier choix ces dernières années en tout cas, et j'aimerais bien savoir pourquoi, parce que c'est vrai que de l'extérieur, j'ai pas mal de peine à comprendre, surtout quand on sait qu'il y a d'autres profils qui s'essayent très bien en Espagne, comme sont ceux de Iago Aspas et Rodrigo Moreno.
J'ai vu un tweet très amusant d'un journaliste de Valence hier, parce que forcément le match de Diego Costa a fait ressurgir un nom, Alvaro Morata. Et donc ce journaliste-là, Eduardo Esteve, disait à chaque fois que la Quatre, les commentateurs de la Quatre prononcent le nom de Morata, bam, chupito. Parce que c'est limite devenu un jeu à boire, quoi.
Bah, c'est le bingo, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est que Morata, il sort d'une saison catastrophique. Ils ont recruté Giroud pour l'enlever, mais en Espagne, ils parlent beaucoup, beaucoup du profit de Morata. Et forcément, ça ressort là, d'autant que Diego Costa est un naturalisé. Donc, fatalement, ce genre de réflexion a l'habitude de ressurgir tous les 4 matins.
C'est ça, il y a un lobby pour Alvaro Morata en Espagne, et il a même cherché à utiliser ce lobby avant le mondial. Il a fait des interviews, il a un peu expliqué sa situation, c'était recevable, c'était entendable, entre guillemets. Alors ça justifie pas sa présence dans le groupe espagnol, c'est clair, mais il a, on va dire, quelques alliés, j'imagine, dans le monde journalistique, et les journalistes de la Cuatro, de Cuatro en font partie, on va dire. On sait quelles orientations footballistiques ils ont, ces journalistes.
Ouais, après, à partir de l'analyse de mettre Morata en neuf à la place de Diego Costa, quand on regarde le match d'hier, on peut se dire que c'est pas tout à fait stupide. Il a beaucoup plus le profil. Maintenant, c'est vrai qu'il sort d'une saison, on n'en parlera pas, mais quand on regarde hier Diego Costa qui veut continuer à aller au Turbin, en fait, on a l'impression qu'il est encore en mode Atlético Madrid. Il a du mal à adapter son jeu, et je pense que ça va être une des limites d'ailleurs de l'Espagne au mondial.
Est-ce que ce ne serait pas son duo avec Iago Aspas qui ne le ferait pas? Est-ce qu'il faudrait changer de système? Parce que Diego Costa déjà a bien marché avec Lopetegui, contrairement avec Del Bosque. C'est aussi pour ça qu'il renouvelle sa confiance. Est-ce que c'est compliqué parce que Aspas, Rodrigo Moreno, ça marche nettement mieux. Enfin, ça ne peut que marcher, ça ne peut que mieux marcher. De toute façon, leurs profils sont identiques, comme tu
Ah
disais, pas complémentaires, comme disait Elias.
par contre, j'aurais bien voulu voir Diego Costa dans la configuration avec Vasquez et Asensio. Parce que là, les ballons arrivaient dans la surface. Par contre, il n'y avait personne devant. Hein. Quand tu regardes la deuxième mi-temps, les ballons étaient dans la surface, mais il n'y en a pas un qui je veux dire, le plus dangereux, ça a été Nacho encore, quoi, qui tente une frappe enroulée en lucarne. Donc, je pense que là, il aurait peut-être été important de le voir là. Et le problème, c'est qu'il est sorti. Donc,
J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous ne trouvez pas que. Alors, la dernière fois, ils ont gagné 6-1, donc c'est contre l'Argentine. C'était sans Messi en face. Il y a eu un très bon match contre l'Allemagne. Mais est-ce que par rapport à ce qu'on a vu hier, avec une très très forte possession, ça doit être du 75-25 sur toute la partie, est-ce que cette Roja-là n'est pas trop joueuse et pas assez tueuse au final?
je crois que c'est ce à quoi elle doit faire attention, vraiment. Parce que la domination territoriale, elle va l'avoir, et c'est même quelque chose que les adversaires vont lui accorder sans problème. Ils savent qu'ils ne peuvent pas rivaliser dans le jeu avec l'Espagne, donc ils vont s'enfermer derrière, ou en tout cas, ils vont attendre, et ensuite à l'Espagne de se débrouiller. Et l'Espagne, ben, elle a vraiment cette tendance à faire la passe de trop, on va dire, ou faire la passe qui va permettre à la défense adverse de s'en sortir. Et la domination, elle est là, le jeu proposé, il est là, il est bon. On voit les automatismes, on voit les combinaisons, il n'y a rien à redire et il faut féliciter Lopetegui pour ça parce qu'il a réussi à donner il a réussi à faire revivre, on va dire, cette Espagne. Mais par contre, c'est vrai que dans les derniers mètres, elle doit faire attention à conclure, elle doit faire attention à marquer ce but, elle doit faire attention à ne pas se mettre en danger inutilement parce qu'hier, elle domine tout le match, hier, elle contrôle son match et au final, bah, sur une occasion qu'elle concède, il y a but. Et derrière, pour aller marquer, bonne chance de nouveau. Donc, cette Espagne-là, quand elle a de l'espace devant elle et quand les Lucas Vasquez, l'Asensio peuvent rentrer en fin de match, je ne me fais pas trop de soucis pour elle parce que ses joueurs sont supérieurs et quand vous avez des joueurs supérieurs, marquer, c'est moins un problème pour vous. Par contre, en début de match, quand c'est fermé et quand il y a une accumulation de milieu de terrain, il faut faire attention à vraiment chercher ce but. Et elle ne fait pas exprès hein, de ne pas marquer, on s'entend bien. Mais c'est, on va dire, un petit travers qu'elle peut avoir, c'est une petite touche d'inachevé qu'elle peut avoir.
Justement, est-ce qu'un profil comme Diego Costa, ce n'est pas idéal pour commencer un match pour aller pour mettre de l'impact et pour aller chercher des ballons de la tête? Même si l'Espagne, c'est pas pas souvent chercher dans les airs.
Pas du tout même. Ouais.
Oui, c'est ça. Mais ça c'est.
Je sais pas si je dirais ça. J'imaginerais plus Costa en fin de match, par exemple, quand le rythme du match est un peu plus cassé, quand en fin de match justement, t'es un peu plus désespéré, on va dire, et tu mises sur d'autres choses, des centres, de la vitesse. Je pense au contraire qu'en début de match, l'Espagne, elle doit tenter d'aller jouer avec Moreno ou Aspas pour vraiment être fidèle à son jeu et faire le travail. Parce qu'en début de match, si vous faites les passes, si vous maîtrisez le ballon, l'adversaire, il se fatigue aussi. Et en deuxième mi-temps, ça peut permettre à Costa de rentrer, par exemple.
C'est pas ce qui s'était passé avec Adouris à l'Euro, notamment.
Ça s'est passé avec très bien la Coupe du Monde en 2010 aussi. L'Espagne a déjà utilisé ce scénario-là. Mais...
Oui, puis il y avait aussi à l'Euro, il y avait 2008, il n'y a pas Dani Guissa qui est rentré aussi en fin de match.
Oui, il rentrait en fin de match, Dani Guissa, ouais, c'est juste.
Ah, j'ai écrit sur Mallorca, donc j'ai tapé Dani Guissa aujourd'hui, ça m'a rappelé des bons souvenirs. J'adorais Dani Guissa. complètement fou. Hier, Bousquet était absent. Il avait une gastro. Au-delà des circonvolutions de son transit, parlons du poste de Thiago Alcantara qu'il a, on va dire, remplacé poste pour poste. T'as pas été trop convaincu, Elias?
Non, j'ai pas été trop convaincu et c'était prévisible. Je vais pas jeter la pierre à Thiago parce que. Il fait un bon match en soi, mais c'est juste pas son poste, c'est ça le problème. Et ça s'est assez rapidement vu quand il fallait sortir le ballon. En fait, les joueurs espagnols étaient souvent à la même hauteur. Au final, la manière dont l'Espagne a réussi à faire sortir le ballon, c'est en incorporant Iniesta. C'est avec Iniesta que le ballon a pu sortir. C'est lui qui a pris le ballon dans ses pieds, qui a mis des adversaires, on va dire, derrière lui, et l'Espagne a pu s'en sortir comme ça. Et dans cette configuration-là, quand il y a un pressing adverse, vous attendez que votre joueur devant la défense, Busquets d'habitude et cette fois Thiago, prennent on va dire, ses premières passes à son compte et fasse ce premier travail pour ressortir le ballon. Et Thiago, comme j'ai dit avant, il ne l'a pas fait, mais plus que ça, ça a pénalisé l'équipe sur le côté droit aussi, parce que Iniesta prenait les ballons côté gauche, il s'en sortait côté gauche très bien, mais le côté droit, durant les 20 premières minutes, il a été délaissé, notamment parce que Thiago n'orientait pas la première passe dans cette phase du jeu, et s'il n'orientait pas la première passe dans cette zone du jeu, c'est parce qu'il intervenait assez peu, somme toute. Du coup, on a une sorte de déséquilibre et je n'ai pas été emballé par Thiago parce que, encore une fois, ce n'est pas son poste et ces responsabilités-là, il ne peut pas vraiment les prendre, il n'est pas vraiment taillé pour les prendre. On parle d'un joueur dont on a dit qu'il était peut-être meilleur en numéro 10. Là, on le fait jouer en numéro 6 ou 5. Donc, c'est vraiment plusieurs mètres plus bas sur le terrain. Et à partir de ce moment-là, il y avait plus de désordre amené par Thiago qu'autre chose parce qu'il a attiré vers l'avant, parce que c'est un joueur qui aime progresser balle au pied sur le terrain. C'est pas vraiment ce qui convient à l'Espagne pour ce poste-là, mais j'ai pas envie de lui jeter la pierre parce que c'était vraiment flagrant que c'était pas sa position. Et qu'il y a
Puis je pense aussi que Lopetegui s'est dit, tiens, on a laissé l'occasion de le tester aussi, de voir un peu comment il pouvait évoluer. On sait pas ce qui va se passer pendant le mondial, Busquets, il pourrait se blesser et voir un peu ce qui pourrait se tramer derrière, quoi. Je pense que c'était aussi un test et bon. Il n'a pas été très concluant pour moi. Mais bon.
Oui, et puis il faut dire qu'il a choisi de le valoriser plutôt que Saúl, alors que Saúl, il avait déclaré dans la presse il y a quelques temps qu'il pouvait jouer à ce poste, qu'il devait se former pour jouer à ce poste, mais qu'il était prêt à jouer là. Et on voit que la confiance a été donnée à Thiago. C'est un test, vraiment, ouais, comme le dit G, c'est un test.
Oui, enfin, Thiago, il y a des joueurs, c'est un peu, pour le dire un peu de manière triviale, c'est un peu les petites copines de Lopetegui. Ouais, je pense à des Isco, à des Thiago. C'est pas négatif parce que il a relancé Isco, et puis il a toujours voulu jouer avec cette même ossature, avec des joueurs de ballon. Mais peut-être que là, oui, c'est mieux de voir dans ce registre-là. Sachant que Saúl est aussi un bon joueur de foot. Hein. Mmh.
Oui, c'est vrai, il a des accointances avec certains joueurs, on va dire, c'est des joueurs qu'il a connus avec les jeunes. Bon, là, il n'a pas pris Morata non plus, donc on va pas étendre ce postulat à tous les joueurs, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qu'il apprécie particulièrement. Ouais.
Une question qui me fait... Villarreal, c'est le club de Marcos Senna, qui était le Busquets de 2008. pour les plus jeunes, pour les plus jeunes qui nous écouteraient. Et c'était une remarque qui était faite à Aragonès, sachant qu'il n'y avait pas assez de muscles dans l'entrejeu, et que partir avec seulement Marcos Senna, c'était du suicide. Bon, finalement, Aragonès avait raison. Mais est-ce que par rapport au... alors, Busquets reste Busquets, mais il a eu beaucoup de pépins physiques. Là, il était malade. Est-ce que partir avec quasiment pas de backup, c'est pas un très gros risque pour Lopetegui? S'il était parti par exemple avec un Yaramendi qui a fait deux très grosses saisons, par exemple, ça aurait été peut-être un peu plus rassurant au poste de 6.
Oui, c'est un risque. C'est vraiment un risque. Et il aurait pu prendre Rodri aussi. Il ne l'a pas pris parce que Rodri est très jeune. Mais c'est vraiment un risque qu'il a choisi d'assumer. Bon, après, est-ce que justement, comme on l'a dit avant, dans un coin de sa tête, il s'imagine que Thiago peut jouer là? Est-ce qu'il s'imagine que Saul peut jouer là? J'imagine qu'il a bien pesé le pour et le contre, notamment parce qu'il n'a pas pris Javier Martinez dans sa liste. Donc, j'imagine qu'il a assez confiance en son plan. Mais de l'extérieur, en tout cas, ça peut paraître comme un risque. Ouais, c'est la position qui définit le jeu de l'Espagne. On va dire, sans un joueur assuré à ce poste-là, il n'y a rien qui peut être fluide dans le jeu. Il n'y a rien qui peut se passer comme espéré. Et tous les autres postes ont des remplaçants de grande qualité, ont des remplaçants qui pourraient être titulaires sans trop de problèmes, on va dire, où l'écart, en tout cas, ne serait pas si flagrant. C'est pas le cas avec Busquets, et il faudra quand même se poser une question pour les prochaines années. Est-ce que Rodri Hernandez va vraiment pouvoir confirmer à ce poste à l'Atlético Madrid et s'affirmer comme le substitut de Busquets? Parce que sinon, ça va être compliqué pour l'Espagne. C'est soit Rodri, soit rien pour l'instant.
Même, je pense que Saúl n'a pas le meilleur sur un côté et qu'il n'a pas. Même Carlos Soler peut jouer dans l'axe aussi. Il a fait de nombre là avec l'Arlor en attendant les joueurs du Real.
Mais c'est tous des joueurs qui ont l'habitude de jouer en 4-4-2, par exemple. Ils jouent rarement en 4-3-3 seul à ce poste-là. Tu vois ce que je veux dire?
Tout à fait. Puis sur un côté aussi, Saúl et Carlos Soler. Mais bon, ils sont. Oui, Rodri, c'est clairement. Rodri peut jouer. Rodri, il joue devant la défense à Villarreal dans un 4-4-2 losange.
Mm-hmm. Ouais.
Là, il va passer sur un 4-4-2 à plat. Ouais, effectivement, il va falloir suivre ça de près. Coquet, tu le verrais pas dans ce registre-là, même si lui aussi a tendance à jouer sur un côté atlético.
Coquet, c'est un joueur que j'arrive pas à comprendre personnellement. Là, je dois quand même avouer mon incompétence, parce que un temps j'ai pensé que c'était ce joueur vraiment qui pourrait intervenir dans toutes les situations de jeu, qui pourrait prendre le jeu à son compte à l'Atlético. C'est quand même pas ça qu'on voit. Et à l'Atlético, il a été un peu trimballé sur le côté gauche. C'est là qu'il a l'air meilleur, en tout cas, dans ce 4-4-2 à plat avec ce rôle de faux joueur de couloir. Il a joué au centre aussi, mais finalement, quand les choses décisives sont arrivées du côté de l'Atlético, il n'a vraiment pas confirmé dans cette position-là. Donc, j'arrive vraiment pas à me prononcer sur Koke. Je ne saurais même pas dire si c'est un meilleur milieu relayeur, si c'est un meilleur milieu centre pur, comme on dit en Espagne. Franchement, j'ai de la peine à savoir ce qu'est Koke après toutes ces années que j'ai passé à le regarder. Donc, c'est dire si je patauge.
Et toi, Jérémy, qu'est-ce que tu penses de ce manque pour moi, ça peut vraiment être rédhibitoire.
On voit bien de toute façon que dans plusieurs équipes au niveau là international où on a musclé aussi un peu le côté aspect défensif, là on est quand même sur des joueurs qui ont plus de côté technique et moins physique. Si Busquets n'est pas à 100%, ouais, ça peut devenir un point faible de l'Espagne. Après, ils ont tellement de qualités autres que je pense ils peuvent réussir à varier en fait leur jeu pour essayer d'éliminer le problème, parce que en sachant qu'on a quand même derrière les Ramos et Piqué qui peuvent aussi faire un sacré boulot et un sacré aspect on va dire entre la défense centrale et le milieu de terrain défensif, il y a possibilité de pouvoir s'en sortir. Maintenant, si les adversaires voient ses faiblesses et qu'ils jouent dessus, parce que hier on avait la Suisse, bon, sans vouloir être très méchante avec eux, mais très méchant, mais c'est vrai que c'était pas d'un niveau exceptionnel. Mais quand on a vu qu'ils quadrillaient très bien le terrain, qu'ils faisaient le bon pressing, ils arrivaient à ressortir proprement, on a vu qu'en deuxième mi-temps, l'Espagne était vraiment acculée et ils avaient un peu de mal. Donc je sais pas, contre le Portugal par exemple, ce que ça pourrait donner si on a un Busquets sur le banc.
On va faire un point rapide sur les autres postes, notamment celui de gardien de but. Pour commencer, David De Gea, grand pot de pêche. Ouais, une intervention à faire, il se trouve. Est-ce que pour vous, c'est à cause de la coupe de cheveux? Ou est-ce que c'est un problème plus profond? Alors déjà, en préambule, je suis pas du tout fan de David De Gea. Je suis pas un gros fan des gardiens en première ligue, de toute façon. Pour moi, c'est un gros trompe-l'œil, tout ça. Je suis pas du tout un supporter de David De Gea. Le problème, c'est que derrière, il y a personne. Parce qu'entre Pepe Reina qui passe les disques et Kepa qui fait une saison entre deux eaux, et finalement, De Gea, il est là parce que tout simplement, il n'a pas de concurrence, quoi.
C'est pas faux. Mais bon, quand on le voit hier, c'est la nonchalance. Quand on le voit un petit peu gesticuler, on se rend compte, en fait, moi, sur le but, en plus, on le voit, il manque d'autorité, quoi. C'est peut-être le poste le plus défaillant au niveau de l'Espagne, hein, d'ailleurs, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, Elias, mais...
Bon, de toute manière, comme l'a dit FM, le constat il est assez simple. Ce sera De Gea ou De Gea, parce que derrière,
oui,
il n'y a personne pour le suppléer. Donc, à partir de cet instant-là, bon, l'Espagne, elle est, je sais pas si condamnée, mais elle va jouer avec lui. Je trouve que c'est un bon gardien, vraiment, qui a progressé ces dernières années, mais, il a quand même cette tendance, parfois, avec l'Espagne spécialement, avec Manchester United, c'est moins le cas, je trouve, à faire certaines boulettes, parfois, qui peuvent coûter cher. Et j'ai pour preuve, par exemple, le ballon qui relâche face à l'Italie en huitième de finale de l'Euro, ça fait but direct. Et c'est sur ce genre de match-là où on se dit, bon, David De Gea, on sait ce qu'il vaut, on sait qu'il va être titulaire, mais on attend encore ce grand match référence avec l'Espagne, on attend aussi cette prestance, on va dire. Avec Manchester United, il a une prestance dans les goals, c'est incroyable, tout le monde lui fait confiance, il sort des arrêts miracles. Avec l'Espagne, on n'a pas encore vu ce genre de performance.
Non, bien sûr. Et après, on t'en avait parlé, je me souviens, quand on avait fait la previa avec l'Atlético Marseille. C'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, FM, mais c'est on avait parlé d'Oblak, et tu avais dit, c'était très juste d'ailleurs, que par rapport à déjà son placement, il rassurait tout le monde, parce qu'il avait toujours le geste juste. Là, le problème, c'est qu'il rassure personne. Heureusement, devant lui, il y a quand même deux pointures des défenseurs centraux, Ramos et Piqué. Mais ouais, je pense que les deux doivent pas être si rassurés que ça quand le ballon arrive à hauteur des mains de leur gardien.
Voilà, derrière, on sait que c'est un très bon gardien qui brille notamment par ses réflexes et qui parfois compense un mauvais placement ou une sorte de manque d'anticipation avec ses pieds, avec une grande détente. Ce n'est pas la propreté incarnée comme Black, mais ça reste, je pense, un des meilleurs gardiens du monde. Le problème, c'est que bon, il va falloir s'attendre à quelques surfroides parfois, à quelques arrêts miracles. Et ça, vous ne pouvez pas y faire grand-chose parce qu'encore une fois, il n'y a personne pour le suppléer dignement.
Ah, c'est ça le problème.
Ouais, non, c'est vrai. Mais bon, si on regarde l'Espagne ces dernières années, on va dire qu'elle est quand même assez bien lotie avec ses gardiens. Quand on pense qu'il y a eu des gardiens qui ne faisaient même pas partie du top 10 mondial, elle ne va pas non plus se plaindre d'avoir des réas. Si on regarde les autres sélections, il y a Neuer qui est dans les buts de l'Allemagne qui fait consensus, il y a Alisson qui est dans les buts du Brésil qui fait consensus, et les autres nations, ce n'est pas forcément l'assurance tout risque non plus. On peut reprocher en tout cas à tous les autres gardiens des autres nations quelques éléments, j'imagine.
Oui, puis aussi, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de nations. Enfin, quand on regarde les stats, la Suisse a tiré 5 fois au but. Donc, c'est vrai que dans un match, s'il peut réussir à ne pas se trouver quand même sur les 5 occasions. Quoi.
Dernier poste dont j'ai envie de parler pour ce match, c'est celui de latéral droit, puisque Álvaro Odriozola a mis un superbe but. Il faut rappeler un peu le but de Luis Hernandez contre l'Espagne il y a 25 ans, quelque chose comme ça. C'était plus dans l'axe et une reprise plus, le ciseau était plus prononcé.
Ce serait peut-être, tu rajoutes 10 ans, non?
Non, 25 ans. 25 ans, non? Un peu plus, oui, il arrête en 91. Oui. Ouais, oui. Bon, ça va. Je suis pas plus vieux que je me suis déjà. donc Carvajal n'a pas joué parce qu'il est blessé et que de toute façon il était les joueurs du Real Madrid. C'est une petite discussion que j'ai eu avec Sid Love, donc ceux qui suivent qui lisent l'anglais. J'ai eu la chance que Sid Love me réponde sur son 11 de la saison, et lui il met Odriozola, et nous ça s'est disputé à Foyaliga, Odriozola ou Carvajal. Lui m'a dit ouais, Carvajal il fait quand même une saison qui est pas ouf. Moi je trouve que ça reste quand même la référence à ce poste là mais est-ce que il y a un risque que Odriozola lui prenne la place sur toute la compétition. Moi, je pense que le premier match, il peut titulariser de cela parce que Carvajal ne sera peut-être pas forcément remis. Mais est-ce qu'il peut vraiment s'installer et ne plus bouger?
Ilias, vas-y, si tu as.
Bon, déjà, pour commencer, dans mon 11 de la saison, j'ai pas mis de latéral droit parce que je crois que personne ne méritait. Alors, j'ai fait une défense à 3, ça pourrait être le problème, non?
Ouais, moi je l'ai mis parce que moi j'ai mis Carvajal, j'ai dit si on met pas du genre du Real Madrid, on va avoir des problèmes.
Voilà,
C'est le
c'était un
seul
choix.
que je pouvais mettre et c'est un des genres que je préfère au Real. Donc, mais bon, il a joué 25 matchs, il s'est un peu blessé.
Ouais.
Ça, bah, je trouve que Carvajal, bah, moi j'adore Carvajal, je trouve qu'il est frappé
Ouais.
et tout. Et Odriozola au sol, à côté, la saison que sort la Real Sociedad, je peux pas, enfin, c'était compliqué de récompenser la Real par rapport à ce qu'ils ont sorti et par rapport à. Après, il fait une très grosse saison, mais.
Ouais, mais c'est ça en fait, c'est que là on juge sur la saison. Odriozola a fait une très belle saison. Par contre, je suis pas sûr que pour Lopetegui, ça soit le titulaire, hein. Je pense que Carvajal sera titulaire.
Carvajal sera titulaire et pas forcément sur le premier match parce qu'il n'y a pas une nécessité absolue de faire jouer Carvajal. Et je pense quand même que Carvajal a un avantage sur Odriozola, c'est la manière de gérer l'espace dans son dos. Hier, la Suisse, on a assez peu profité parce que le pressing de l'Espagne a été bon. La Suisse n'a pas eu les armes collectives et individuelles pour se défaire de ce pressing-là, mais dans le dos d'Odriozola, il y avait toujours, toujours, toujours un espace. Carvajal, ça ne veut pas dire qu'il ne laisse pas d'espace dans son dos quand il attaque, ça veut dire qu'il a une manière de récupérer ces mètres qu'il laisse un peu meilleure que celle d'Odriozola. Il a plus d'expérience aussi, il ne faut pas
Mais c'est ça.
espérer qu'il arrive au Real Madrid, c'était pas trop rose non plus, mais il a une expérience qui fait que dans le jeu de l'Espagne, ça peut servir beaucoup, d'autant plus que du côté gauche, Jordi Alba laisse aussi un certain espace et c'est pas Andrés Iniesta qui va faire l'effort pour aller couvrir les épaules, le dos de Jordi Alba. Donc, on a meilleur temps côté espagnol de continuer avec Carvajal et la hiérarchie sera respectée sans aucun problème. Par contre, là où il faut valoriser de cela, c'est que sur les matchs où il a été appelé avec l'Espagne, il a été bon à tous les coups. Il marque, il tente, il a vraiment cette joie de jouer qui transparaît un peu et il ne fait absolument pas tâche. Et ça, c'est très très fort quand vous jouez à la Real Sociedad, quand c'est vraiment votre deuxième saison où vous êtes au plus haut, on va dire, parce que la saison passée, il a été bon durant la deuxième partie de saison. La première partie de saison, on ne savait pas qui c'était, ce jeune latéral droit. Et il est vraiment en train de s'imposer comme un choix naturel. Et quand on le voit jouer sur la pelouse, on n'a pas l'impression que c'est un nouveau, on n'a pas l'impression que c'est un joueur qui débarque, on n'a pas l'impression que c'est un joueur qui doit assurer pour ne louper aucune passe et se faire bien voir de son entraîneur. On a vraiment l'impression que c'est un joueur qui est là depuis quelque temps, qui comprend vraiment les mécanismes du jeu et qui ne va pas se cacher non plus, qui va vraiment jouer comme il sait jouer. Et ça, c'est très, très positif.
Il avait
Ouais.
été sélectionné pour la première fois contre l'Albanie, il me semble, le match à Alicante, et il avait fait une passe tout de suite pour Rodrigo Moreno, qui lui aussi fêtait sa première sélection. Ils étaient titularisés tous les deux, et ils avaient marqué, ils avaient, enfin, le duo avait très très bien fonctionné. Oui, c'est sûr que oui, il laisse du monde, oui, il a du monde sur le carreau, de cela, parce que effectivement, sa sélection déjà contre l'Albanie était normale, et là finalement, c'est quelque chose d'absolument logique qui soit la contre. Je sais plus, j'ai perdu le nom du joueur qui était en balance avec lui.
De toute façon,
C'est Sergi Roberto, le joueur qui aurait pu aller à sa place.
oui, bah oui, non, je prends André cela.
et puis il a que 22 ans, hein, les mecs. C'est l'avenir, ça. On sait bien que Carvajal va pas être, dire, ad vitam aeternam sur le côté droit. Donc, je pense que Odriozola, s'il gère bien la suite de sa carrière, parce que là, il est vraiment, depuis 2 ans, on va dire qu'il est vraiment bon. Je pense que ça sera le latéral droit du futur. Et pour la gestion des grands événements, et parce que Carvajal, voilà, il a l'habitude des grandes compétitions, voilà, il faut mettre Carvajal, je pense. Et c'est tout l'apprentissage des Odriozola, des Rodri cette année, là. C'est emmagasiner de la confiance, emmagasiner de l'expérience pour les futures compétitions.
Alors, je viens de checker, Jérémy, tu as dit qu'il y avait un peu plus de 25 ans. Je t'ai dit, Luis Suárez arrête en 91. Et bien, le but contre l'Espagne est de 91.
Ah,
Voilà.
ça fait 27 ans. Voilà.
Quand même, quand même, quand même. Il y a du niveau à Folha Liga quand même. Hein. De mémoire, on n'est pas trop mauvais. Hein. Ouais, j'ai dit 25 ans. Ouais. Après, j'ai trouvé l'année. Donc, voilà, je me suis bien récupéré.
Ouais.
Voilà, Luis, c'était un bon joueur.
C'est ça.
Elias. On te remercie pour tes analyses.
Mais je vous dis à très vite surtout.
Est-ce que tu veux rester pour la Segunda ou est-ce que tu es pris par le temps?
Non, je suis un peu pris par le temps. Il y a des papiers qui
Ah, un Suisse
m'attrapent.
pris par le temps,
C'est ça.
c'est histoire. On va quand même signaler que tu as sorti un superbe papier sur les trois buteurs uruguayens qui vont à la de Liga qui vont à la Coupe du Monde, Stoani Suarez et Maxi Gomez, un superbe papier. Donc si vous avez, je vous conseille fortement d'aller le lire.
Ça vaut peut-être expliquer aussi le principe.
Ça, c'est trois joueurs, les trois buteurs au travers de trois batailles de l'Uruguay.
C'est ça.
Voilà, au 19e siècle.
Ça, voilà. Ça, on s'est plongé dans l'histoire de l'Uruguay.
Du... Comment ?
On s'est plongé dans l'histoire de l'Uruguay hier, et voilà ce qui en ressort. C'était sympa.
Magnifique. Et en termes d'originalité et de talent d'écriture, voilà. Moi, je vous conseille d'aller lire Elias. Bah, mais au moins, Elias, il te reste quelques jours pour te savoir si t'es pour la Suisse ou pour l'Espagne. Tu peux pas choisir.
En ou là, en là. Bah, imagine que le premier jour, enfin le premier match de l'Espagne en 2010 à la Coupe du Monde, c'est contre la Suisse, ils le perdent. Je vous laisse imaginer mon arrivée à l'école le lendemain, c'était quelque chose. Et puis au final, bon, ça s'est bien passé. Alors voilà, on peut dire que
c'était pas Gelson qui avait marqué.
C'était Gelson Fernandez sur une action, il embarque. Casillas, il embarque l'arcade de Piqué. C'est la seule fois où j'ai senti de la peine pour Piqué dans ma vie. Enfin, c'était des événements.
Bon, merci à toi, Elias, et on se retrouve vite sur le podcast.
Ciao, à bientôt. Bonne fin
ciao.
De
podcast. Ciao. Ciao.
Jérémy, tu es en tête à tête avec moi. N'est pas ouais. On va parler de Segunda, de la 42e journée de Ligue de Segunda, donc Liga 1, 2, 3.
Ça y est.
L'épilogue.
Enfin.
Presque oui. Enfin, effectivement. On a enfin les affiches et des barrages d'accession. Alors, Machal et Numancia Saragosse. Et c'est pas Gijón, c'est pas Valladolid, c'est les deux. Donc, avec un petit Valladolid Sporting à l'aller et Gijón jouera le match retour au Molinón. Bon, on va commencer par le meilleur. Numancia est passé finalement.
Ah, mais c'est sympa. Ouais, alors il faut savoir que avant cette dernière journée, il y avait j'ai vu toutes sortes de calculs pour en fonction des matchs et compagnie, et en fait il y avait deux équipes qui étaient en fonction des points. S'il y avait donc le même nombre de points pour plusieurs équipes, il y avait deux équipes en ballotage favorable, c'était Numancia et Osasuna. Ils dominaient en fait toutes les autres, donc ils dominaient Oviedo, Cadiz sur les rencontres direct, avec donc ils étaient plus ou moins sûrs s'il y avait donc on s'arrêtait à 65 points, c'était eux qui devaient passer. Donc il y avait de grandes chances que l'un des deux passe, et puis ben Numancia est passé, qui a réalisé on va dire une performance correcte face au Leonessa. Pourtant, ils se sont quand même fait un peu peur. Leonessa qui était obligé de au moins récupérer un point pour se maintenir. Et puis, bah non, ça s'est joué dans le dernier quart d'heure. Et Unai Medina a envoyé donc Numancia au play-off pour affronter Saragossa.
C'était très serré encore une fois, puisque j'ai retrouvé le classement. Oviedo a 65 points également. Il passe pas la différence particulière.
Voilà, c'est ça.
Osasuna a fatalement joué contre Valladolid, donc c'était malheur au vaincu. Enfin, eux étaient dans l'obligation de gagner de toute façon, et donc ils sont pas passés. Mm-hmm. Tout simplement. Je sais plus le score. D'ailleurs, est-ce que tu l'as en mémoire ? Parce que j'ai complètement oublié. Ils ont dû.
De 2-0 pour.
Ils ont perdu, c'est ça.
Ils ont perdu 2-0.
Cadiz a sauté. Évidemment, alors ça leur pendait au nez depuis très très longtemps.
Et je l'avais dit, je connais très bien Alvaro Cervera, et j'ai toujours dit, quand on n'a pas de buteur, surtout dans son dispositif tactique, l'équipe est condamnée à perdre des matchs.
Ah, c'est la raison de Samoa, mais ils ont perdu contre Grenade en plus, qui n'avait plus rien à jouer.
Ouais, mais c'est le derby, et Machis, il était en forme, donc il a claqué deux buts.
Non, Machis, comme disent les Mexicains. Ouais, non, ça c'est le luxe d'avoir vécu avec beaucoup de Mexicains à Valence. Donc du coup, je connais un peu les expressions idiomatiques pour dire fatch, pour le dire ouais. Poliment. Saragosse a battu le Barça B.
Ouais.
Était déjà condamné. Ça en est fallu de peu, mais est-ce que tu penses pas que redescendre en Segunda B, c'est une chose pas si mauvaise que ça pour reconstruire, sachant qu'il y a pas mal de monde qui va partir.
Oui, 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 je pense que là, il y a tout à refaire, hein, de toute façon, Barça B. Et repartir sur contre des équipes peut-être un peu plus faibles, parce qu'il y a aussi de l'amateur, semi-amateur là-dedans, hein, en Segunda B. Donc, je pense qu'ils peuvent se refaire une belle santé et ils ont des chances de remonter l'année prochaine. Maintenant, je ne sais pas si tu as vu passer, mais il se pourrait que les divisions changent dans un an. Tu as vu l'info, non ?
Non, mais ça m'étonne pas parce que avec l'arrivée de Rubiales.
Voilà. Donc en fait, ils voudraient faire un peu comme en France, c'est-à-dire
oui,
que.
Oui.
Voilà. Donc et donc ça renforcerait parce que les meilleurs de Segunda B se retrouvaient dans une nouvelle division en fait. Donc ce qui montre, enfin voilà, ça les trois premières divisions seraient vraiment très fortes et ce qui serait encore plus difficile pour les équipes de Tercera, notamment régionales, de remonter après derrière. C'est vraiment pour se garder trois divisions d'un très bon niveau.
Si la Segunda B est complètement professionnelle, c'est pas une mauvaise chose non plus. Une division de Segunda B, tu fais un groupe unique.
C'est ça, ils veulent faire un groupe unique avec les meilleurs des quatre groupes. Et puis, oui, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que ce qui est bien aussi dans ce côté en Espagne, c'est que des équipes des petites villes de province peuvent jouer contre la Castilla, contre, et ça c'est génial quoi. Quand on voit moi j'ai le souvenir, c'est il y a 2 ans là, parce qu'il y a une blague qui est tournée aux Canaries, le CD Manzanero qui est maintenant en Tercera jouait en Segunda B dans la division dans le groupe 2 avec Madrid, et donc Zizou est venu faire un match au Silvestre Castero, et magnifique stade d'ailleurs, et il y a une photo donc ils ont ressorti en disant voilà, je pense que Zizou, on sait où il va aller, parce qu'on le voit avec sur le banc avec le logo du Mensajero, en disant voilà, c'est la prochaine destination de Zizou. Mais bon, et voilà, ça permettait aussi d'avoir un peu de professionnel dans des petits clubs amateurs. Là, ça sera de plus en plus dur.
Pas tout à fait complet sur le Barça B, sur le Barça même en général. Les Alevines, elles ont gagné la Liga Promis et sa Villarreal. Encore une fois, c'est la deuxième fois qu'ils remportent le tournoi. Ils ont battu l'Espagnol en finale, si je ne me trompe pas. Ils ont mis un goal fantasme contre le Depor en demi, de mémoire. Ça avait jasé. Ils ont gagné un tir au but contre Séville. Voilà, qui menait au score. Séville. Voilà. Donc les gamins ont encore gagné le tournoi U12. En revanche, fortune diverse, puisque la Juvenil A s'est faite sortir en Coupe d'Espagne contre l'Atlético. Voilà, 3-1. Je crois que c'est à domicile d'ailleurs. Et donc, l'Atlético est passé. Et pour ceux qui ont été complets sur la Juvenil A, il y a un scandale à Valence, c'est que le Real Madrid a égalisé à dernière minute après 5 minutes d'arrêt de jeu, un but de la main. Voilà. Donc, ça, c'était un gros sujet à Valence samedi soir. Bref. On va repasser à la Segunda.
Oui.
Il y a une petite affaire, une petite affaire. Quelque chose qui pourrait faire beaucoup de mal au football espagnol, c'est qu'il y a des rumeurs de corruption sur des matchs truqués avec le Nastic et ou Huesca. C'est pas le match Nastic-Huesca la 40e, 41e journée. C'est des matchs en janvier, en avril. Et il y aurait eu des suspicions de matchs truqués. C'est la SEL qui en a parlé. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Ce que j'en pense, c'est que si ça arrive, c'est que c'est triste, parce que on a quand même là-dedans, Nastic, lui, n'a pas grand-chose à jouer dans les futures années. Mais là, Huesca qui monte. S'il se retrouve mêlé à une affaire de match truqué et de malversation d'argent et compagnie, je sais pas ce qui va se passer durant l'été.
Et ça serait la seconde année consécutive qu'il y aurait un scandale de match truqué. C'était le cas l'année dernière en Segunda B, dans un match du Barça d'ailleurs, contre Eldense qui avait fait dernier de son groupe de Segunda B, et des joueurs avaient truqué le match, notamment un des matchs au Mini Estadi contre le Barça. Il y avait eu, je ne sais plus combien, il y avait eu 7 ou 8-0, quelque chose comme ça, ou même 12, je ne sais plus, 12-0 peut-être, enfin, un truc scandaleux. Moi, pour rigoler, j'avais tweeté qu'ils avaient dû vendre le match contre un barbecue, Et en fait, ouais, effectivement, ça avait, c'était trop voyant. Ce coup-là était beaucoup trop voyant. Ils ont remonté la filière, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu des matchs truqués à Eldense l'an dernier. Et c'est un joueur qui avait vendu la mèche, qui avait refusé d'être dans la combine. Voilà, donc, ça serait terrible que pour la deuxième année consécutive, il ait fait avérer de corruption dans les petites divisions espagnoles.
Ouais, et surtout pour un promu, enfin, le promu en Liga. Oui, quoi.
Plus, parce que le Nastic, sans vouloir faire offense à Maxi Franco Sanchez, c'est quand même pas trop surprenant. Disons, quand on connaît un petit peu l'environnement du club, bon, voilà, Huesca, c'est un peu plus. C'est un peu surprenant parce qu'en plus, ils gagnent tout. Enfin, ils ont beaucoup gagné cette saison. Donc,
bah oui, non, mais
c'est jusqu'à monter directement. Donc, donc voilà. On va passer à une chose plus réjouissante. Le maintien, enfin, réjouissante, ça dépend. Cordoba, qui a réussi à l'exploit de se maintenir avec Sandoval, qui a rempli sa mission. Alors, tu peux rappeler les faits pour Cordoue, pour ceux qui nous ont qui étaient pas
Ah non, mais en fait, si on reprend le championnat début de saison, jusqu'à quoi, mois de janvier-février, Cordoba est dernier. Il est vraiment à la ramasse. Il décide de tout changer, ils reprennent Sandoval. Là, on s'est dit, de toute façon, c'est trop tard. Moi, je me souviens encore au mois de février, je les vois gagner les deux premiers matchs, je me dis, ouais, bon, voilà, il y a trop de retard. Et puis, au fur et à mesure, victoire sur victoire, ils sont sortis de la zone de relégation il y a deux matchs, et puis ils se sauvent, avec 3 points d'avance d'ailleurs sur le premier relégable. Super fin de saison, boulet de canon. D'ailleurs, je crois que j'ai vu passer l'info. Si on regarde sur les 13 derniers matchs, le premier serait donc Saragossa, deuxième Cordoba. Donc pour situer un petit peu le parcours incroyable.
Ouais, c'est ça. L'entraîneur, on a envie de dire ouais, boss un peu. C'est quelqu'un qui a du caractère et qui
voilà. Elle est arrivée, il a tapé du poing.
C'est vraiment le genre, ça pour taper du poing sur la table, il a dû casser la table d'ailleurs.
Ah, non mais c'est ça, ouais. Non mais incroyable. C'est ce que la Liga Endesa, la Segunda nous fait de mieux. Hein. C'est des retournements de situation dingues. Comme on voit Saragossa qui était aussi à la ramasse il y a quelques mois, qui finit troisième, et encore heureusement que le championnat il dure pas encore 3 semaines, parce que je suis sûr qu'il aurait été chercher le Rayo devant. Incroyable aussi, et je pense que voilà, je sais pas si on parlait de pronos, mais Saragossa sera en finale des playoffs, et je les vois contre le Valladolid, parce que Numancia, c'est très compliqué dernièrement, et le Sporting, il est en perdition complète.
Oui, ils ont fait 3-0 justement contre Cordoue, c'est assez…
Et quand on voit la physionomie, ils avaient tout pour être 3e, voire 2e, et ils lâchent la 3e place, ils se retrouvent 4e. Enfin, le Sporting, il commence à arriver au fond du… Enfin, je vais pas dire au fond du trou, mais ils sont vraiment sur la pente descendante. Et face à un Valladolid où le stade va être gonflé et chauffé avec le Jaime Mata qui est en feu, voilà, je pense que Valladolid va le faire.
Ouais, c'est 33 buts.
Il a encore claqué un péno. Ouais, bon, il tire tous les pénaux, donc c'est vrai qu'il en a marqué pas mal. Mais
il a un taux de conversion qui est assez incroyable. Il a mis 33 buts en 110 frappes sur la saison. C'est monstrueux. Il est quasiment à un tiers, quoi.
Ouais. Ouais.
Donc c'est.
Après, je sais pas, j'ai pas la stat, hein, mais je crois que les 3/4 de ces buts sont dans la surface, et dont la plupart dans les 6 mètres. C'est quand même, c'est un renard, quoi. C'est vraiment le buteur à l'ancienne encore.
Ouais, c'est comme tu disais pour Cadiz, t'as pas de buteur.
Là, ah bah non,
qui te met 33 pions.
Ils ont calculé. Les supporters de Cadiz étaient fous hein, ce week-end, parce que ils y croyaient encore. Et il y en a un qui, donc, j'ai vu aussi passer l'info. Il a additionné tous les buts de leur joueur offensif. Et ça n'arrivait pas à dépasser Jaime Mata avec ses 33 buts.
Non, mais je crois qu'ils ont la. Je suis en train de regarder là, ils ont vraiment une attaque catastrophique. Okay. Même le Barça avait a plus marqué, le Couto l'a donné ça a plus marqué.
Ouais, ils ont 42 buts marqués, mais bon, ils ont la meilleure défense avec Vincent.
Oui, ils ont 29 buts, ouais, mais bon, à un moment, c'est ce qui fait. Vraiment, faut mettre des pions, parce que même si tu prends pas de but, si t'en marques pas non plus,
t'as pas. Je sais pas si tu as vu, c'est la malédiction Jonah.
Oui.
À chaque fois qu'il passe dans un club, soit il descend, soit il les fait chuter. Donc voilà, et c'est ce qu'il disait. Bon.
Un dernier mot sur l'équipe qu'on aurait aimé qu'il reste, mais ils vont descendre, c'est la Cultural Leonessa.
Bah oui.
Ouais. Qui à un moment était sauvée parce que Lugo faisait match nul à Alcorcon, si je ne me trompe pas. Et non, contre Almeria, pardon. Et Almeria a égalisé et s'est sauvé à la différence de but particulière.
Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que c'était quelqu'un qui. Enfin, quelqu'un. C'était une équipe qui proposait du beau jeu. Toujours à essayer de poser la balle dans une division où il y a beaucoup de physique, beaucoup de voilà, il faut pas se le cacher, il y a quelques clubs où le schéma tactique, bah il y en a pas vraiment, et c'est dommage parce que Ruben de la Barrera qui est venu avec des idées, on l'a tous vu, c'est-à-dire que les observateurs, je pense que si on regarde ceux qui suivent notamment la Liga, la Segunda, beaucoup, voilà, ont vraiment loué les qualités de jeu de Leonessa et notamment de son entraîneur, qui d'ailleurs, voilà, a été, je vais pas dire récompensé, mais dans le sens où on a vu son potentiel, son aspect offensif et son jeu léché. Et en fait, on essaie de l'appeler maintenant. Les sirènes de la Liga l'appellent.
Oui, alors c'est un entraîneur qui a 33 ans.
Oui,
c'est le plus jeune de la Segunda. Et la rumeur insistante, c'est qu'il serait l'adjoint de Acer Galitano
à Sociedad.
Et ça peut vraiment être pas mal. Ça peut vraiment être pas mal. Parce que tout à l'heure, j'ai vu un résumé d'un match de la Real cet après-midi. Et je me suis dit. Acer Garitano, déjà, ça joue très très bien au ballon. Enfin, en tout cas, quand on vient quadriller, comment c'est cohérent. Si en plus, tu lui rajoutes des vrais attaquants, comme William Fossé, par exemple, parce que bon, Leganés, il n'a pas été trop trop servi entre Guerrero et Beauvue, c'était pas trop la folie non plus. Si on lui donne un buteur qui met 15-20 pions par saison, qu'il a du Oyal Saval, et que t'as de la balle, là, qui propose un jeu un peu plus offensif que ce que proposait Acer Garitano, la saison prochaine peut être très très sympa du côté d'Anota.
J'espère pour eux, mais c'est vrai que si après, je pense que comme tu l'as dit, il a 33 ans, il est encore aussi en phase d'apprentissage. Déjà, ce qu'il a fait avec la Leonessa, c'est super. Et puis c'est quelqu'un de quand on l'entend, notamment en conférence de presse, le mec, il est humble, il se la pète pas. Enfin voilà, il est conscient que il est arrivé là, que il est très heureux d'ailleurs hein, d'être là. Hein. Il le dit souvent. Il s'est surpris aussi, et puis c'est un bosseur, et je pense que c'est le futur, notamment des futurs coachs de Liga. Je pense qu'il va se faire un petit peu ses marques là-bas, et puis dans quelques années, il prendra la tête d'un autre club, voire pourquoi pas de la Sociedad si Galitano s'en va vers d'autres cieux.
Pour terminer sur la Cultura Leonessa, Almeria. Se sauve et sauve bien plus que ça. Parce que si Almeria descend, c'est pas sûr que ça termine en Segunda B.
C'était liquidation, je pense. Mais oui, vraiment énormément. Enfin, alors, je vais pas dire de la chance parce que quand on arrive à revenir d'un 1-0 parce qu'il perdait contre Lugo et 4 minutes. Jouer,
hein. Heureusement pour eux, hein, parce que Couture là, il jouait contre Numancia qui avait la qualif.
Ouais, c'est ça. Et puis il faut savoir que Lugo marque ce premier but, on se dit c'est bon, Almeria il est au fond du. Et non, en fait 4 minutes après ils égalisent. Ils ont eu quand même un bel élan psychologique et une force psychologique pour pouvoir revenir dans le match. Ils se sauvent, tant mieux pour eux. Par contre pour la Liga, pour la Segunda, je suis pas sûr que ça soit si positif parce que c'est quand même une équipe qui n'a pas proposé grand-chose cette année. Et quand on voit la Cultura le descendre, ouais, on y perd, à mon avis, en qualité de jeu.
Parmi les 4 promus, il y en a 3 qui descendent, finalement. Lorca, Barça B et donc la Cultura. La seule équipe qui s'est maintenue, c'est Albacete.
Ouais. Oui, qui a failli aussi.
Qui n'était pas loin de la charrette, ouais, mais qui s'en sort. Et l'entraîneur Enrique Monreal, qui était passé notamment par Osasuna en Liga l'an dernier. Qu'ils avaient fait monter, je crois, et qu'il avait repris, qui avait été viré en cours de saison, quitte Albacete, donc il va s'apprendre. Et dans le même temps, Alcorcón aussi, entraîneur qui est jeune, parce qu'il a 36 ans de mémoire, Julio Velázquez, et donc qui vient d'annoncer son départ lui aussi d'Alcorcon. Mm-hmm. Entraîneur jeune, ça aussi, ça va rester certainement en Segunda, parce que finalement, Alcorcon se maintient et finit même, à la même, ils finissent assez haut ouais. Par rapport à ce qu'ils ont fait. Je crois que c'est l'équipe plus âgée en moyenne d'âge de la Segunda, la plus expérimentée en termes de match de Liga aussi.
Ouais, mais qui joue, quand tu regardes bien à la fin, dans les derniers matchs, ils sont toujours là, quoi. C'est toujours tangent, les trois. Et puis au moment clé, le money time, hein, comme on dit en basket, ils sont présents. Et ça, c'est important. Et je pense que l'expérience aussi peut jouer dans ces cas-là. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour Leonessa, qui n'avait pas vraiment d'expérience en Segunda.
Pour tout à fait complet, il y a des barrages aussi dans toutes les divisions, ouais. En Segunda B notamment. J'ai retrouvé les affiches. Et Fuenlabrada fait match nul contre Villarreal à domicile.
Ouais, ouais, ouais. De toute façon, ça, il y a eu. C'est pas vraiment flagrant, hein, ce qui s'est passé. Après, t'as Vigo B, je crois.
Celta B a fait 0-0 contre Cartagena à domicile. Extremadura a perdu 1-0 contre Mirandés à domicile, donc Mirandés qui était sorti par Majorque.
C'est ça.
Dans le groupe des champions, et donc Majorque est monté directement. Mirandés est à 90 minutes de retrouver la Segunda, et Elche qui a remonté le score, qui perdait 1-0 à domicile contre le Sporting de Gijón B, et qui l'a emporté 2-1. Donc un ballotage un peu favorable, mais bon, il n'y a qu'un but d'écart, donc on peut quasiment dire que Mirandés va passer. Mmh. A priori, avec un but à l'extérieur d'avance. Et après, 2-0-0. L'avantage est toujours là pour l'équipe qui joue à l'extérieur le match retour. Donc pour moi, ce serait Fuenlabrada, Celta B en favori. Je sais pas ce que tu en penses.
Ouais, à voir. Maintenant, tu disais qu'ils sont à 90 minutes de montée. Et non, ils ont encore un match derrière. Hein.
Oui, c'est vrai. Non, tu as raison.
Non. Je pense que.
Oui, non, je suis. Ça dépend. Oui, t'as raison, bien sûr. Mais dépend si tu prends le Sporting B et que le Sporting ne monte pas, t'es direct. T'as 90
minutes. Ah oui, d'accord. Oui, c'est possible.
Voilà comment je m'en sors.
Mais non, parce que Elche, Nino, je sais pas si tu as vu, mais encore, on va dire, inscrit un peu sa légende encore plus fort. Parce que, alors Nino, à chaque fois, il passe quelque part et il inscrit sa légende. Hein, donc, on l'a eu à Sassuna et on l'a eu à Tenerife. Maintenant, il est à Elche. Il est increvable. Et il a encore marqué le but victorieux de Elche. Le doublé, parce qu'il marque à la 93e. Donc, moi, Elche Mirandés, après, dans les autres comptes, c'est vraiment serré. Donc, je ne pourrais pas te donner de favori. Mais j'espère d'ailleurs que ces deux clubs, Mirandés et Elche, pourront monter. Parce que c'est quand même des clubs qui sont un peu historiques dans la division. Et ça serait dommage de les voir encore un an en seconde AB, quoi.
Oui, et puis Fuenlabrada, ça rajouterait un club madrilène.
Madrilène, oui, tout à fait.
Donc ça serait exceptionnel. Et peut-être qu'il y aura un derby, ça serait incroyable. C'est un derby Deport contre Celta B, ça serait terrible.
Ouais. Maintenant, Cartagena, c'est costaud aussi en arrière, donc on verra. C'est le match retour à Cartagena.
Et pour les barrages d'accession en Segunda B, est-ce que tu as suivi tes chouchous de Castellón?
Oui, j'ai regardé le match d'ailleurs, donc 0-0 contre San Andreu, le club catalan. C'était physique, hein, y a eu des blessés de partout. Mais au final, mauvais résultat, parce que je pense que San Andreu chez eux, à domicile, après un 0-0 à Castellón, il n'y aura plus donc l'influence des 12 000 spectateurs de la Castellia, donc ça va être compliqué au retour. Maintenant, c'est un match, on sait bien, ça joue en 90 minutes. Le problème, c'est que si on gagne, on passe pas, hein, parce qu'il y a encore des barrages derrière. Donc voilà, c'est encore une nouvelle étape. Par contre, je parle un petit peu pour mes chouchous, les clubs canariens. Tenerife et B a perdu à Herrera 2-0, match catastrophique de la part des Canariens. Donc voilà, et match retour la semaine prochaine. Et puis on a aussi San Fernando, donc en Canaries, il y a un deuxième club qui est sur l'île de Las Palmas, qui lui a gagné 1-0 contre Borja, et qui est plutôt en ballotage favorable, donc à suivre.
Pour être tout à fait complet, le Huesca a officialisé la prolongation d'un an de Cucho Hernández.
C'est ça, oui, j'ai attaque. Vu ça aussi. Oui.
Voilà, et il y a eu la finale aussi de la Coupe de la Reine en football féminin. Mm-hmm. Qui s'est, alors les demi étaient à... Alors ça aussi, il faut aussi comprendre le football espagnol dans son délire le plus absolu. Quart de finale en format aller-retour. Donc c'est comme les huit premières du championnat joue la Copa de la Reina. Quart de finale et retour. Demi-finale, match sec à Reus pour mm-hmm. jouer la semaine d'après à Mérida, qui est à l'autre bout du pays. Et ça s'est terminé en prolongation à minute 121 et 45 secondes, but du Barça, qui bat l'Atlético de Madrid, qui ne fera pas le doublé cette saison.
C'est ça. Voilà.
Et si ma mémoire est bonne, le Barça a gagné la coupe en foot féminin, en foot masculin, en handball, en rink hockey et en basket.
Comme c'est quoi
cette saison, ils ont fait radia sur les coupes, sur la coupe nationale.
Et pour être complet aussi sur la, là on va parler de Copa del Rey, la Coupe du Roi, la formation est passée aussi. Les quatre premiers tours seront donc en match sec. Il n'y aura plus d'aller-retour. Donc ça c'est très intéressant, notamment pour les petits.
Ah. En fait, moi je pense que ça arrange les gros. Parce que de toute façon après ton quart de finale aller-retour, ça va rien changer du tout.
Non, bien sûr, mais voilà, mais je pense que pour des clubs de Segunda B qui peuvent encore prétendre, voilà, pour le fun, aller jouer un peu plus de gros, je pense que c'est quand même beaucoup plus aisé de battre un gros sur un match que sur deux. Donc je pense que ça peut être ça peut être sympa. Ça va donner
il y aura des surprises, mais de toute façon à partir des quarts, tu repasses en mode aller-retour.
Voilà. Oui, non, mais bien sûr, mais bon, déjà de voir arriver certaines équipes ça changerait un peu du carcan Liga qu'on voit chaque année, quoi.
Ouais, mais enfin, après parce que ça faisait quand même un très gros mois de janvier la suite de matchs aller-retour.
Hein. Ouais, non, mais c'est sûr. Et puis quand on voit le chemin de croix pour les équipes de Segunda, déjà il y a 42 matchs dans la saison. Si en plus tu fais des matchs aller-retour et que tu vas loin dans la Copa del Rey, la saison elle est interminable.
Mais cette année en plus, il y a eu pas mal de surprises en plus cette année. Donc,
Mais bon, c'est bien. Enfin, peut-être Tenerife passera le premier tour ce coup-ci, donc ça sera cool.
on va refermer ce podcast. Suivez nos articles sur Foya Liga. On a démarré un cycle Coupe du Monde. On a commencé par le groupe A aujourd'hui. Alors, avec de mémoire, la Russie, Pais Amphitryon, comme on dit, l'Arabie Saoudite, avec Kerem Puskás, un des premiers sélectionneurs du succès en Arabie Saoudite, l'Égypte, avec un papier sur Hector Cuper, quand il s'est révélé à Majorque, et donc le papier d'Elias sur les trois buteurs de l'État uruguayen. Et toi, tu as beaucoup, beaucoup de papiers qui vont arriver cette semaine. Avec Benjamin Brouchet, vous êtes au Stakhanoviste.
Je pense que c'est ce qu'on a fait là, c'est super sympa dans le sens où c'est de la culture foot, ça parle des pays, mais aussi de la Liga, enfin de l'Espagne en général. Et je pense que ça peut apporter des bien belles histoires comme celle d'ailleurs d'Elias tout à l'heure. Et vraiment à suivre. Et c'est vraiment un beau projet sur cette semaine là qui va arriver.
Et demain d'ailleurs, on enchaîne avec le groupe B, le groupe de l'Espagne. Mmh. Donc avec, si je ne me trompe pas, dans l'ordre, ça va être Portugal, Maroc et Iran. Alors j'ai eu la chance d'avoir le papier de Benjamin en avant-première sur l'Iran. Je vous le recommande. Voilà, je vous le recommande, le papier sur l'Iran. Il rend très bien. Voilà, sans mauvais jeu de mots. Voilà, c'est très très bon. Voilà, je te remercie, Jeremy, pour cette heure du podcast du lundi.
C'est moi qui te remercie. C'est bien sympa, comme d'hab.
Alors, forialiga.fr, vous pouvez partager nos articles sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, partager notre podcast et les vidéos, tous nos articles. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Allez, hasta luego. Ciao. Adeo.